Et bonsoir, il n'est pas 8h, mais 8h24, on a eu un petit problème technique dans les studios, vous êtes en direct avec l'émission Rock'n'Roll Diaries, qui va parler aujourd'hui. Luc, de quoi va-t-on parler ?
Aujourd'hui, on va parler de Men in Black, et c'est pas du cinéma.
Bonsoir Fabien.
Hello, I'm Johnny Cash.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Alors, il faut expliquer à nos auditeurs, on a eu un petit problème, ça fait 20 minutes qu'on est en direct, mais en fait, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, donc personne n'a pu nous entendre.
Donc, j'entendais rire.
Donc, on va reprendre l'émission. Alors, vu ton apparition remarquable et remarquée la dernière fois, les nombreux SMS d'auditeurs et d'auditrices, surtout, qui ont demandé ton retour, bonsoir Dave.
Bonsoir.
Merci d'être là. On va parler de Johnny Cash, vous l'avez compris, avec cette chanson. Johnny Cash qui est encore en vie, Dave.
Oui, d'ailleurs, il vit toujours à Badarou. Hein.
Et non, il est mort. Johnny Cash est mort. Fabien va nous en dire un peu plus.
Oui, il est mort, mais il a commencé par vivre. On commence par là ?
On va commencer par là.
On commence par là, allez. Donc, on va résumer la vie de Johnny Cash. C'est simple, une phrase. Johnny Cash est né en 1932 dans l'Arkansas, pendant la Grande Dépression. Voilà.
On peut s'arrêter là.
Voilà, pendant la Grande Dépression, ça résume un peu sa carrière, vu les chansons qu'il écrivait, hein, c'était pas très joyeux. Donc voilà, il naît en 32, il n'est pas dans les champs de coton, mais il y travaille avec toute sa famille quand il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Sa famille qui comptera beaucoup, beaucoup pour lui, surtout sa mère et son grand frère. Donc il a plusieurs frères et sœurs, mais c'est vraiment son grand frère Jack qui a quelque chose comme 2 ans de plus que lui,
ouais,
pas beaucoup plus, mais qui est vraiment l'image du grand frère qui lui donne des conseils, etc. Et qui va mourir assez vite, en fait, dans des circonstances assez abominable vu qu'il est scié en deux par une scie circulaire, normalement à ce moment-là David Rie. Exactement comme ça. Enfin, il faisait comme ça en tout cas dans la première émission qu'on a enregistrée tout à l'heure.
Voilà.
Qui n'est pas passé. Enfin, celle qui était en direct. Parce que là, on n'est pas en direct, on est d'accord.
Là, on n'est pas en direct, on enregistre, c'est bon.
Non, c'est parfait.
Je bois un coup alors.
Bon, bon appétit. Merci. Et donc, son frère qui meurt, si en deux, plus ou moins, parce qu'il reste un peu attaché, comme on dit, par une scie circulaire, et ça traumatisera Johnny Cash pas tellement par le type de mort, mais aussi parce qu'il n'était pas sur place au moment où c'est arrivé, en fait. Son frère était assez fatigué, il est allé travailler après une journée dans les champs, ramasser du coton, et c'était un petit peu son... voilà, Johnny Cash lui disait, non, on n'y va pas, c'est bon, t'es fatigué, il y est allé quand même, résultat, il se fait couper en deux.
Il s'en est toujours voulu, Johnny Cash, d'être pas là au moment voilà. où son frère est mort.
Voilà. Et il verra... Il faisait quoi, lui, Johnny Cash, pendant que son frère se faisait découper ?
Il allait pêcher.
Il ramassait des balles de coton ? C'est ce qu'il dira à la police.
Ouais.
Officiellement.
Voilà. Et donc, toute sa vie, quand même, il reverra son frère Jack en hologramme, non, en hallucination plutôt, hein, c'est mieux, c'est approprié.
Et oui.
Voilà, il entendra sa voix qui lui donnera des conseils. À chaque fois, avant de faire quelque chose, Johnny Cash se dira qu'est-ce que mon frère Jack aurait fait ? Voilà. Enfin, quand je dis à chaque fois, c'est un peu exagéré. Est-ce que je vais reprendre des pattes ? Qu'est-ce que Jack aurait fait ?
Ça nous rapproche voilà. un peu de l'ancienne, de la dernière émission avec David Bowie, où son frère avait pris une grande partie dans sa vie.
Et... Tout à fait. Et où c'est le cas aussi pour Ray Charles, enfin pour tout un tas de gens. En fait, on voit que quand les frères meurent, bah, ça fait de la bonne musique.
Hein. Mm-hmm. Ça a des problèmes avec les frères Jack aussi.
Oui, c'est vrai. Mais ils sont tous morts ou pas ? David, est-ce qu'ils sont morts, les frères
Jack ? Non, il en reste deux encore.
Deux ? Sur, oui. sur oui. combien ?
Sur 8.
Deux sur 8.
Oui.
D'accord.
Mmh. C'est pas la moyenne. 8 frères Jack.
Les huit frères Jacques, bien sûr.
Les huit frères Jacques. Ouais. De Badarou.
De Badarou, oui.
Encore.
Oui.
Donc voilà, donc on est dans les champs de coton, on est triste, on travaille beaucoup, et on chante quand même pour se donner du courage en ramassant le coton. On chante avec surtout la mère, donc. On chante du gospel. Voilà, c'est très adapté, le gospel, dans les champs de coton, même si, oui. on tient à le préciser, c'est pas une émission raciste, on peut le dire. Mais Johnny Cash est blanc, hein. Enfin, pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, c'est un peu le cliché dans les champs de coton, tout ça. C'est une famille blanche américaine de base, pauvre, qui
populaire.
Vit dans, voilà, populaire, qui vit de rien, qui subit les inondations, qui travaille dans les champs. Voilà. Et donc Johnny, il découvre la musique avec la radio, comme tous les enfants de cette période-là, et avec les chants de sa mère, donc de gospel. Et aussi avec un meilleur ami qui lui apprend à jouer de la guitare. Donc comme ça, il peut s'accompagner et il va de moins en moins dans les champs de coton. Il fait de plus en plus de musique. Donc voilà, jusqu'au moment où il se dit « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et là, quand on a 18 ans et qu'on ne sait pas quoi faire de sa vie, que fait-on ?
On fait du bowling ou de la danse ?
Voilà, on peut faire ça, mais aussi on peut s'engager dans l'armée. Voilà, donc lui, il choisira l'armée, je ne sais pas pourquoi.
C'est un choix.
Voilà. Donc il choisit l'armée.
Moi, j'aurais fait bowling perso.
Moi, la danse, j'aime bien, tu.
Oui, la danse, moi
oui,
aussi.
Oui, oui,
ouais, c'est bien, la danse.
Donc l'armée.
Donc l'armée, il va en Allemagne, donc il a de la chance vu que la Seconde Guerre mondiale est bien finie à cette
53.
Période. Voilà, 53, donc on peut dire que voilà, c'est, ça y est, c'est sûr, c'est fini. Il intercepte des liaisons radio, c'est son boulot un peu là-bas, les soviétiques, etc. Hein. Voilà, et puis il joue de la musique, il continue de jouer de la musique de plus en plus et de mieux en mieux. Il écrit déjà ses premiers morceaux.
Alors qu'on se rassure, c'était pas de la musique militaire, hein, Fabien.
Ah non, 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 c'est pas de la musique militaire. Voilà, c'est de la country gospel. Voilà, à l'époque, ce qu'il aime, c'est la country gospel. Et il enregistre David sous quel... Non, il enregistre pas d'ailleurs, mais il joue sous quel nom de groupe à cette époque-là ?
Les Tennessee Two.
Non, avant.
Les Barbarians.
Voilà.
Yeah.
Landsberg Barbarians, c'est du nom de la base allemande où il est basé.
David a des pompes. Hein.
Allez,
Dave.
Énorme.
Ouais. Énorme. Dave a des pompes.
Ouais, c'est vrai.
Et il chante pas sous le nom de Johnny Cash, vu que...
Il a pas de prénom. En fait.
Voilà, il a pas de prénom. Ça sera plus tard, vraiment...
Il s'appelle JR.
Voilà, il s'appelle Johnny. Ses parents n'arrivaient pas à s'entendre sur un nom.
Il faut préciser ça, ouais. Voilà. Ses parents l'ont appelé JR voilà. Cash, JR. Et c'est à sa majorité donc, qu'il moment, a décidé voilà. de s'appeler John.
Bah, au moment de partir à l'armée, voilà, il était obligé, donc il a choisi John. Et donc, c'est après, quand il enregistrera, qu'il choisira Johnny. Voilà. Mais ça, c'est plutôt Luc qui va nous en parler après un premier morceau qui s'appelle A Boy Named Shoe.
Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.
Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table dealing stud sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue, how do you do? Now you gonna die. Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough, and I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die, and it's that name that helped to make you strong. Yeah, said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, 'cause I'm the son of a bitch that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that man.
Et voilà pour ce premier morceau de Johnny Cash. On tient à dire que si l'émission n'a pas marché au début, c'est à cause de Bruno M du Louvre. On n'en dira pas plus, Luc.
Oui, on peut dire que Bruno M est le plus grand fan de Johnny Cash en Lozère et que son rêve est d'organiser un grand festival Johnny Cash sur le Cos.
Et d'ailleurs, il offre demain matin entre 8h et 9h à ceux qui se présentent
dans
son
estaminet.
Ah oui, tout à fait.
Au Louvre, à Mende.
En prononçant le mot Johnny Cash, le nom de Johnny Cash. Voilà. Il offrira le café le matin.
Et son sourire.
Et un alcool de prune.
Oui.
Voilà, on va revenir à Boy Named Sue. Juste deux, trois mots sur cette chanson qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Sue.
Sue Ellen. Blue Sweat Shoes.
JR Cash. Il y a beaucoup de...
Voilà, ça, on l'avait fait tout à l'heure en blague. On a dit qu'on ne la refera pas.
On a dit que ça n'avait pas marché tout à l'heure dans le premier enregistrement. Ça ne marche toujours pas, Dave.
On retente.
D'accord.
Non. OK. Donc, il s'appelle Sue et il va passer toute une grande partie de sa vie à chercher son père qu'il a abandonné pour lui faire payer justement le fait qu'il l'ait appelé Sue, ce prénom féminin qui lui a valu tant de désagréments auprès de ses camarades de classe et de moqueries. Et finalement, l'histoire veut qu'il retrouve son père qui l'a appelé Sue, qu'il veuille le tuer et que finalement son père lui dise « J'ai été appelé Sue pour que toute ta vie tu sois endurci, tu deviennes fort, que tu aies la haine. » Et ce qui devait arriver, il ne tue pas son père, il tombe dans ses bras. Voilà. C'est
d'ailleurs,
un peu moral de Johnny Cash.
Moral, quand on s'endurcit, on devient une chochotte.
C'est ça.
D'ailleurs, j'ai une question, Fabien. Johnny Cash est un peu ressorti, s'est un peu démarqué des chanteurs de l'époque, surtout par ses paroles. Bon, la musique est bonne, on le sait. Mais surtout par ses paroles, il chantait des paroles que les autres, des histoires que les autres ne racontaient pas obligatoirement.
Oui, voilà, tout à fait. C'est quelqu'un qui parlait de tous les côtés sombres de la personnalité, de sa propre personnalité d'ailleurs. C'est quelqu'un qui parlait de drogue, ça on est habitué dans le rock'n'roll, mais moins dans la country. C'est quelqu'un qui chantait peu de chansons d'amour ou alors sous l'angle alcoolique, du genre « j'ai trop bu, je ne peux pas faire l'amour ». En résumé, voilà, c'est pas des chansons forcément tristes, mais c'est des chansons d'un grand déprimé en tout cas.
Grand déprimé, mais qui a commencé par enregistrer des chansons. En 54, Johnny Cash et sa femme, parce qu'il s'est marié quand même dans toutes ses péripéties, avec Viviane Liberto, avec qui il aura 4 enfants, 4 filles.
4 filles, oui.
Il se marie et il déménage à Memphis, dans le Tennessee, au lieu de la musique country.
Pourquoi Memphis ?
Du blues.
On se demande. Il aurait pu venir à Malbouzon.
Il aurait pu venir à Marvejols.
Marvejols.
À Pierre Fiche.
À Pierre Fiche.
Saint-Julien-des-Poins.
Sénaré.
Sénaré.
Sénaré de Barjac.
En tout cas, il se pose à Memphis.
À Marvejols.
Il se pose à Memphis où il travaille, il fait des petits boulots. Il travaille notamment comme vendeur de porte-à-porte. Parce qu'il veut être speaker à la radio. Voilà, il veut faire ça plus tard quand il sera grand.
Il veut être Ludovic.
Exactement.
Il avait une voix de baryton, comme moi.
Aussi.
J'ai peut-être chanté.
Ou pas.
Ou pas.
Ou pas. Donc, il tente quand même sa chance musicalement parlant et il envoie un premier enregistrement chez Sun, la fameuse boîte de production, le studio de Memphis.
Elvis Presley.
Jerry
Lee Lewis.
D'où sont sortis, effectivement.
Barry Elvis White.
Presley. Roy Orbison. Carl Perkins. Roy Orbison. Donc Sam Phillips, le responsable du studio, le rembarre un peu parce qu'il lui envoie un gospel. Et Sam Phillips lui dit non, mais nous du gospel on n'en veut pas. Donc t'es gentil, tu te la gardes. Johnny Cash il est pas têtu, il retente sa chance et il envoie la country. Et Sam Phillips lui dit non, j'en veux pas de ta country.
Toujours pas,
je suis désolé, hein. Mais Johnny Cash est têtu, vraiment têtu, et la troisième fois
disco.
Non, toujours pas. Alors, il faut préciser hein, que la discographie de Dave s'arrête aux années 80.
Ouais. 90 avec Gala quand même.
Gala, effectivement.
Précisons, la discographie de Dave, celui qui est dans l'émission, pas celui qui a une coupe un peu bizarre et qui chantait Navina.
C'est pas loin quand même.
En même temps, Dave, le nôtre, il a une coupe un peu bizarre aussi. Tout ça pour dire que la troisième fois, il va directement chez les studios Sun. Et là, cette fois, Sam Phillips lui permet d'enregistrer. Il enregistre une chanson qui s'appelle Hey Porter, qui sera cette fois sélectionnée par Sam Phillips pour faire un single. D'ailleurs, il l'enregistrera à une seule prise. Et Phillips lui dit, c'est bon, ça va être un single. Il dit, quoi? Et donc, ce sera son premier single avec la phase B qui s'appelle Cry, Cry, Cry. Ah,
le morceau qui a marché.
Les deux morceaux ont gentiment marché. Ça n'a pas révolutionné le monde de la musique. Ça a gentiment marché. Ça a commencé à le faire connaître. C'était en 55. Et surtout, ça lui permet derrière d'enchaîner sur ce qui sera son premier tube, Folsom Prison Blues, qui atteindra la cinquième place des meilleures ventes country. Cette chanson de Johnny Cash, il l'a écrite quand il était justement en Allemagne pour son service militaire. Et elle lui a été inspirée par un film qui s'appelle Inside the Walls of Folsom Prison.
Entre les murs de
Inside the Walls of Folsom Prison.
Bravo.
Traduction.
Sans lire.
Traduction.
Non, je cale.
Entre les murs de la prison de Folsom.
Oui, logique.
Qui était un pénitencier. Voilà, donc il l'a écrite donc durant son service. Il écrira Johnny Cash. Je me suis assis avec mon stylo dans ma main en essayant de penser à la plus mauvaise raison qu'une personne pourrait avoir pour en tuer une autre. Pendant que Fabien fait tomber son stylo.
C'est ce qu'on expliquait des paroles, ouais. Ça s'était jamais vu. Là, il explique qu'il tue quelqu'un. Il dit pourquoi je tue cette personne ? Parce que je le veux. Et c'est vrai qu'à l'époque,
j'avais envie de la voir mourir.
Voilà. Ça s'est jamais vu dans la musique country à l'époque, surtout en 55. Il n'y a pas eu d'atrocité historique.
À vérifier quand même. Hein.
Ouais. À vérifier. Hein.
On ne sait jamais. Donc bah, c'est son premier vrai tube. Le premier morceau qui va vraiment le révéler au grand public. Suivi derrière par I Walk the Line. Aussi, qui sera il y a d'ailleurs le titre du biopic qui a été tourné sur la vie de Johnny Cash.
Très bon film.
Exactement, très bon film.
Très bon morceau aussi.
Très bon morceau. Très, très bon morceau qu'on va pas tarder à écouter.
Effectivement.
Je tiens à le dire quand même, remixé en 2009 par Laurent Wolf. Mm-hmm. Un grand morceau. Mm-hmm. Qui a fait de folles soirées en Lozère notamment.
Dave sort ses pompes.
Au mm-hmm. parc des loups du Gévaudan.
Oui. Ouais.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
La chanson I'll Walk the Line, Fabien n'a pas parlé de ses musiciens.
Oui, il a essentiellement deux musiciens qui l'ont accompagné depuis la période Sun, qui s'appelle Marshall Grant, c'est celui qui fait la basse, la contrebasse, et Luther Perkins, à ne pas confondre avec Carl Perkins, donc Luther Perkins qui a la guitare, et qui a un jeu assez limité, on va dire, enfin il est conscient de ses limites, mais d'une certaine manière, c'est ses limites qui font aussi la popularité de Johnny Cash, parce qu'il invente un style qu'il appellera plus tard le chicka-boom. Vous savez, boom, chicka-boom, chicka-boom, chicka-boom. Comme ça, parce qu'il ne sait pas faire autre chose, tout simplement.
Ce qui est déjà pas mal.
Oui, ce qui est pas mal. Ça crée un style, voilà, tout simplement.
Oui. C'est vrai qu'il faut dire que Johnny Cash a fait de la country, mais il a fait aussi du rockabilly, du blues, du rock'n'roll. Il a un peu exploré tous les domaines de l'époque.
Voilà, et c'est quelqu'un... c'est un grand malentendu, Johnny Cash. En fait, c'est quelqu'un qui voulait faire du gospel, qui s'est fait connaître comme chanteur de country, alors qu'il... Finalement, il faisait du rockabilly la plupart du temps.
Mmh. Et quand tu dis qu'il a tout exploré, il n'y a pas que musicalement qu'il a exploré beaucoup de choses.
Oui, il a exploré quelque chose, comment dire, on va appeler ça des drogues.
Enfin, on va parler de drogue dans Rock'n'Roll Diaries, suite au Clash, au Pistol, au Doors, à Nirvana et à David Bowie. Alors, Johnny Cash.
Alors, Johnny Cash, drogue également. Surprise, hein.
C'est étonnant.
Voilà, chanteur country, ça ne veut pas dire sans drogue. Tous les chanteurs country à l'époque se droguaient plus ou moins, surtout prenaient beaucoup d'alcool. Mais lui, ça va aller vraiment très loin. En fait, il commence à prendre des amphétamines dès quasiment pas tout au début de sa carrière, mais dès I Walk the Line, dès les premiers gros succès, parce qu'il part en tournée vraiment 300 dates par an.
C'est ça, 300 dates par an. C'est un concert tous les soirs.
Il faut tenir la cadence, parfois plusieurs fois par jour.
Il est en camionnette, il partait, il conduisait.
C'est une époque en plus où il n'y avait pas des bus pour les groupes, ce genre de choses. Il n'y avait pas les avions, évidemment, pour les accompagner. Donc on conduit toute la journée, on arrive dans une ville paumée, on fait son concert. Et on est tanné au milieu de la nuit, on repart direct. Donc voilà, amphétamine. Il avait vraiment une consommation impressionnante. Je ne sais pas, Dave, si tu connais un petit peu le genre de consommation d'amphétamine qu'on peut avoir en survivant, mais lui, c'était parfois plusieurs centaines par jour.
Et des barbituriques aussi.
Et des barbituriques.
Énormément, surtout.
Énormément, voilà. À tel point qu'il aura un problème un jour qui est un petit peu honteux, parce qu'on ne va pas dire aux gens de cacher mieux la drogue, mais là, c'était un peu nul. Il est allé au Mexique parce qu'on lui a dit que c'était là-bas qu'on pouvait se procurer le plus d'amphétamines, qui, à l'époque, quand même, il faut le dire, sont légales aux États-Unis.
Il avait une ordonnance.
Voilà, il avait une ordonnance. Mmh. Sauf que là, il en ramenait plusieurs milliers d'un coup, parce qu'évidemment...
100 par jour,
voilà. Quand on va se fournir, ça fait tâche aux États-Unis.
C'était discount.
C'était discount, voilà. Il a eu des prix. Et donc, où a-t-il caché la drogue avant de reprendre l'avion ?
À Lidl.
Dans sa guitare.
Voilà, tout bêtement. Donc, évidemment, il s'est chopé, fatalement, voilà. Il passe une nuit au poste, à peine. Donc, c'est gentil, quoi. C'est pas énorme. Tout le monde croira que Johnny Cash, c'est quelqu'un qui a passé sa vie en prison.
Il a joué aussi, dans ses morceaux. Il a dit, voilà, moi, je suis allé en prison, El Paso.
Voilà, il a jamais passé plus d'une nuit au poste ou en prison. Donc, voilà, il connaît, mais bon, pas tant que ça.
Ouais, ça a longtemps été la légende de Johnny Cash... Qui connaît bien la prison parce qu'il était emprisonné.
Parce qu'il a raconté dans ses chansons.
Parce qu'il a écrit « J'ai buté un mec à Reno juste pour le regarder crever ». Enfin, voilà, il joue sur l'ambiguïté aussi à ce niveau-là. Mais effectivement, comme le disait Fabien, il a fait un tour au poste et basta, quoi.
En revanche, il a eu des vrais coups de folie très rock'n'roll et qui sont pas habituels dans la country à l'époque. Il a saccagé pas mal de chambres d'hôtel avec ses amis Marshall Grant et Luther Perkins. Il sciait les pieds du lit comme ça. Enfin, il avait des idées un peu folles. C'est l'époque qui veut ça.
100 amphétamines par jour.
Voilà, il faut tenir aussi. Il lui est arrivé aussi un petit problème qui a fait beaucoup moins rire à l'époque, mais qui aujourd'hui, ça reste un grand aspect ridicule de sa carrière, c'est qu'il a mis le feu, alors volontairement ou pas, c'était dû à un accident de camion, plus ou moins. Enfin, il était dans un parc protégé, je ne sais plus dans quel parc des États-Unis, et tout a cramé par sa faute. Et là, il y a combien de condors sont morts ?
49.
49 sur les 53 condors protégés du parc.
National de Los Padres.
Voilà, ouais. Il n'en restait plus que 4. C'est pas beaucoup, hein.
Voilà. C'est pas très drôle, mais ça reste drôle.
Voilà, il a été condamné pour ça, de toute façon. Mais là encore, il n'a pas fait vraiment de prison. Donc,
en même temps, il a payé $125,000 d'amende.
Exactement. La somme exacte, c'est 125 000 ?
Non, c'est 125 172.
Voilà. Non, on aime bien.
Je triche pas.
En euros, ça fait combien ?
Beaucoup. 5, 4, 3, 2, 1.
33 000.
En euros de l'époque ?
C'est ça.
33 000, on va dire euros. Ça. Enfin, bref, il y a quelques soucis... avec la drogue, il a des soucis avec l'alcool. D'ailleurs, la chanson qu'on écoutait, Ring of Fire, tout à l'heure, parle du cercle de feu, qui parle d'alcool, bizarrement.
Qu'il n'a pas écrit.
Qu'il n'a pas écrite, non. C'est June Carter, dont on parlera tout de suite après avec Luc, qu'il a écrite avec un autre de ses amis. Donc, il se drogue, mais bizarrement, c'est quand même l'apogée de sa carrière. Donc, plus ou moins de ses débuts jusqu'au milieu des années 60, il sort disque sur disque alors qu'il est complètement shooté, complètement pompette. Il habite un moment en colocation avec un de ses grands amis, chanteur country Waylon Jennings, qui est encore plus bourré et encore plus drogué que lui. Donc, ils arrivent à peine à se réveiller l'un l'autre.
Ça ne peut pas l'aider.
Voilà.
Ils avaient l'habitude de faire des courses de voitures à l'aveugle dans le désert de Mojave aux États-Unis. Ils se bandent les yeux, ils faisaient la course. C'est pas facile. Hein.
C'est pas facile. Et des fois, du coup, on a des accidents de voiture. Donc lui, il aura son accident aussi, un peu comme Dylan a eu son accident, comme McCartney a eu son accident.
Ouais, mais lui, il l'a pas eu avec sa voiture. Il l'a eu avec celle de June Carter.
Voilà.
C'est un peu plus embêtant.
Voilà, et donc voilà, ça l'empêche pas d'écrire des bonnes chansons, ça l'empêche pas d'enregistrer des bons albums à cette époque-là. Mais voilà, il arrive à un stade où vraiment il peut plus faire autre chose que d'aller en cure de désintoxication. C'est d'ailleurs June Carter qui l'y enverra, mais ça on va en parler après aussi parce qu'on va d'abord écouter un morceau adapté à la situation, Cocaine Blues.
Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dirty carcass in that county jail. Early next morning, about a 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Hopped and he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
Voilà, ce n'était pas Cocaine de Clapton, c'était Cocaine Blues de Johnny Cash. Luc.
Oui, Johnny Cash et Johnny Cash. Donc, il y a une personne dont on peut difficilement séparer de Johnny Cash, c'est sa deuxième compagne, June Carter, qu'il a rencontrée alors qu'il était déjà marié avec sa première compagne, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelait Vivienne Liberto, qu'il a rencontrée. Ils se sont mariés relativement jeunes, les deux, Johnny Cash et Vivienne Liberto. Ils auront 4 enfants, 4 filles, mais le véritable amour, le véritable grand amour de la vie de Johnny Cash, ce sera June Carter, parce que c'est aussi elle qui l'a sorti une première fois de l'enfer, l'enfer où il était, dont Fabien vient de nous parler des amphétamines, de la drogue, de l'alcool.
Depuis le début, il aime, en fait. C'est la première émission de Rock'n'Roll Diaries où on a vraiment une histoire d'amour derrière. Il y a eu un peu Kurt Cobain avec Courtney Love, mais c'était pas autant que ça. Là, ça a influencé toute sa musique, toute son histoire.
Ouais, ça a influencé beaucoup de choses. D'abord, il la rencontre au début, June Carter, quand il est encore chez Sun, parce qu'on l'a pas dit, mais très vite, il a quitté Sun pour aller chez Columbia, qui lui avait offert un pont d'or. Et Cash rencontre June Carter, qui chante avec la Carter Family.
Il écoute même quand il est petit, qu'il va dans le chant de gospel. Fabien, d'habitude, on parle des artistes qui influencent.
Oui, c'est un groupe très très connu à l'époque, la Carter. Carter Family qui est vraiment vénéré. Et donc lui, le simple fait que ça soit une Carter, il peut quasiment que tomber amoureux. Et donc quand il la rencontre, dès le début, il lui dit « Toi, un jour, je t'épouserai. »
Voilà, c'est ce qu'il lui dit un jour. Il dit « June Carter, un jour, je t'épouserai. » Mais avant de pouvoir l'épouser, il est déjà marié. Il est déjà marié, Johnny Cash. Donc les relations sont plutôt ambiguës entre les deux, entre June Carter et Johnny Cash, qui elle aussi est mariée. Donc cette période-là.
Surtout à l'époque, ouais. C'est pas
voilà,
facile, hein.
C'était pas facile.
Le divorce, c'est mal vu.
Un petit peu dans le sud des États-Unis, un petit peu conservateur, on va dire, de l'époque. Mais les deux se trouvent, hein, les deux partagent beaucoup de choses. Et puis en 66, sa femme le quitte, officiel, hein, sa femme Viviane, elle demande le divorce. Bon, c'est ce qui a fait qu'il est parti en vrille complet avec Waylon Jennings, dont parlait aussi Fabien tout à l'heure. Mais il sait qu'il va pouvoir compter sur le soutien de la Carter Family puisque c'est elle, c'est June Carter et sa mère qui vont l'aider à sortir de la drogue. Alors il a des histoires un peu mystiques sur la façon dont il est sorti de la drogue. Johnny Cash il raconte qu'il est parti, qu'il est descendu dans une grotte aux États-Unis. Et c'est pas grave, on tourne des bouquins.
Dave a fait tomber sa couche.
Ouais.
Oh non.
Problème.
Non, je relis mes notes.
Ouais. Enfin, on a eu peur qu'il fasse tomber sa bière, mais ça va.
On attend tes interventions, Dave.
Il serait descendu dans une grotte.
Donc,
de toute façon, elle est vite, sa bière.
Pour se sevrer de la drogue, effectivement, il serait descendu dans une grotte. Une caverne pour y mourir. Et le souffle de Dieu l'a poussé à sortir, à recommencer sa vie. Voilà, c'est ce qu'il raconte dans sa première autobiographie.
C'est la seconde naissance, hein ?
C'est ça.
Et pour beaucoup, il y en a qui ont beaucoup cru à cette histoire. Et ça paraît tellement improbable que, quand même, il a raconté qu'à sa sortie de ce réseau de grottes infernales dont on ne se sort pas, il est tombé de pile poil sur sa mère et June Carter.
Voilà.
Qui le cherchait.
Ah bah, t'étais où ? J'étais dans une grotte et tout.
June Carter qui n'était pas décédée à l'époque.
Non.
Non.
Non, vu qu'elle est décédée en 2003.
Sa mère peut-être.
Non plus.
Non plus. Non plus. Son frère, non. À la limite, mais il n'en parle pas trop.
Non, il a vu dans la grotte, en revanche.
Il a vu son frère dans la grotte.
En la grotte numéro 4.
Ouais, ça, 4. Il peut.
Ça, on peut dire qu'on a des doutes.
On a des doutes. Le reste, non. C'est pas possible.
Plus prosaïquement, il semblerait que Johnny Cash se soit enfermé chez June Carter, enfin, la famille Carter, pendant un mois. Hein. En fait, elle s'occupe de lui, et puis bon, bah, ça va sceller leur union. Union physique, union morale, union sentimentale et union musicale, parce qu'il va interpréter des titres de June Carter, de la Carter Family. Il va interpréter des titres avec June Carter. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, on va pas tarder à en écouter un.
Écoutons. Jackson,
donc Jackson. En duo entre Johnny Cash et June Carter.
Will you sing a song with me?
I'd be very pleased to sing a song
sure
with you.
Sure look nice.
Thank you. I'm glad to be back in Folsom.
Well, I like to... I like to watch you talk.
I'm talking with my mouth. This way
all
I'll
right,
be...
Let's do a song. We got married in a fever, hotter than a peppered crowd. We've been talking about Jackson, ever since the fire went out, I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town.
Let's go on down to Jackson. Go ahead and wreck your head. Open your hand, you big talking man. Make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson. Go comb your hair.
Honey, I'm gonna snowball. Into that city, people gonna stoop and bow.
All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. Let me laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on the party. Let it drown, pound like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, I'll go to Jackson. You big talking man.
La chanson Jackson Dave.
Who's bad?
Michael Jackson, aucun rapport. Fabien.
Non, aucun rapport, vu que c'est là. En plus, c'est une version là qu'on a entendue enregistrée en prison. Donc voilà, ça tombe bien, vu que c'est le gros morceau de la vie de Johnny Cash dont on va parler maintenant, la prison. Johnny Cash, c'était un peu. Il avait une place à part aussi dans la country et le rock américain, parce que c'était un peu le chanteur des minorités. Le chanteur des gens qui sont sur le côté de la route. Donc il a écrit durant les années 60 pas mal pour les Indiens, par exemple, à une période où ça n'intéressait pas vraiment les chanteurs, les acteurs, tout ça. Il y a eu Marlon Brando, après, qui en recevant un Oscar a parlé des Indiens. Il y a eu Neil Young aussi avec Pocahontas. Mais à cette époque-là...
Il y a
voilà,
Walt Disney aussi.
Tout à fait. Donc, mais bon, là c'était plus tard, c'était une période où tout le monde s'intéressait aux Indiens. Et donc Johnny Cash qui enregistre un album entier même pour les Indiens qui s'appelle Bitter Tears, où il se grime en Indien dessus, il dira toujours qu'il s'est senti Indien. Bon, on découvrira qu'il est d'origine écossaise, mais...
Il ne le savait pas à la base, il croyait qu'il était Irlandais et Amérindien.
Voilà, mais bon, il se trouve qu'il est bien écossais.
Et
il enregistre aussi un album au tout début des années 60 de chansons de hobo, un petit peu, de chansons de train, donc de gens qui circulent comme ça en train, qui traversent les États-Unis de bout en bout, d'est en ouest, juste dans des trains à bestiaux, voilà, et qui font
rapport
de la musique.
Rapport avec la littérature beatnik ou pas du tout ?
Un petit rapport, si, c'est un peu le principe, c'est partir sur la route, entre guillemets, bon là c'est sur les rails, mais on a déjà parlé de drogue tout à l'heure, donc on va peut-être s'arrêter là.
Hein. On va s'arrêter là.
Voilà.
Dave, je tremble.
Voilà, mais dans les minorités, quand même, il y a le gros morceau de la carrière de Johnny Cash, celui qui l'a rendu le plus célèbre, celui qui lui a fait vendre le plus d'albums, c'est en lien avec les prisons. Alors, il faut savoir qu'il a enregistré dans les prisons très, très, très tôt. Dès la fin des années 50, il allait déjà régulièrement dans les centres pénitentiaires pour interpréter ses morceaux. Parce que justement, ils avaient entendu à l'époque Folsom Prison Blues. Et bon, il était un peu vénéré, du coup. Ils avaient l'impression qu'il comprenait ce qu'il vivait à l'intérieur d'une prison.
Est-ce qu'on peut avoir une traduction, la traduction de Rock'n'Roll Diaries du jour
Bah, évidemment. Alors, je vais vous donner la traduction d'un morceau qui s'appelle Saint-Quentin, qui n'a rien à voir avec les Yvelines, vu que c'est le centre pénitentiaire.
Est-ce que ça a rapport avec les prisons ?
De Saint-Quentin, voilà. C'est la prison de Saint-Quentin qui est une des plus mal famées aux États-Unis à l'époque, où il y a vraiment des criminels notoires dedans. Et il va jouer déjà il va écrire une chanson sur Saint-Quentin et il va jouer à l'intérieur de Saint-Quentin. Et il faut voir le courage quand même, ou l'inconscience, que c'est d'aller devant 2000 détenus, on ne sait pas exactement combien, 1000, 1500, 2000, 2500, complètement déchaînés. On fait venir une star à l'intérieur qui n'a pas de garde du corps, rien. Il y a les matons devant lui un petit peu, il y a June Carter qui est terrorisé, les musiciens qui tremblent un peu. Et lui, il arrive et qu'est-ce qu'il leur dit ? Bon, il commence son concert forcément par « Hello, I'm Johnny Cash ». Et après, il chante Saint-Quentin. Alors, traduction de Saint-Quentin. Saint-Quentin, tu as été pour moi un enfer. Tu me tiens enfermé depuis 1963. J'en ai vu partir
J'en ai vu venir et j'en ai vu mourir. J'ai arrêté il y a longtemps de me demander pourquoi. Saint-Quentin, je déteste chaque centimètre de ce que tu es. Tu m'as coupé et entaillé de tous côtés et je te quitterai comme un homme plus faible. Monsieur du Congrès, ne peux-tu pas comprendre, Saint-Quentin, quel bien crois-tu faire? Penses-tu que je serai différent lorsque je serai dehors? Tu as tordu mon cœur, mon esprit et mon âme, et tes murs de pierre m'ont refroidi le sang. Saint-Quentin, puisses-tu pourrir et brûler en enfer? Que tes murs tombent et que je vive pour raconter? Puisse le monde oublier que tu as jamais existé et puisse le monde regretter que tu n'as jamais rien fait de bien? Saint-Quentin, tu as été un enfer pour moi. Donc le gars, il va devant 2000 prisonniers de Saint-Quentin et il leur dit... Vous êtes bien dans la merde.
Ça a bien dû les déchaîner, là.
Voilà, ils ont été déchaînés, mais bizarrement, il arrivait quand même à garder le calme.
C'est un morceau qu'il a écrit... la légende dit qu'il l'a écrit la veille du concert pour l'occasion, en fait, pour ce déplacement à Saint-Quentin.
Voilà, il improvisait, il aimait bien ça, l'adrénaline des concerts, et surtout dans des circonstances un peu dures. Il y a d'ailleurs un autre morceau qu'il n'a pas écrit lui-même, mais qu'il a quasiment improvisé. C'est à Folsom, enregistré en 68, donc un an avant le live enregistré à Saint-Quentin. Là, il y a l'aumônier de la prison qui connaît bien un détenu et qui sait qu'il écrit des chansons country. Et ce chanteur de country transmet à l'aumônier une chanson. Il sait que Johnny Cash va venir jouer dans sa prison. Il dit ça serait bien qu'il joue ce morceau. Il ne croit pas trop, hein, honnêtement. Voilà, Johnny Cash, c'est une star quand même. Et Johnny Cash, il reçoit la chanson la veille, il débarque. Et le dernier morceau du concert de Folsom Prison, c'est ça, c'est Greystone Chapel de Glenn Shirley, qui est juste un détenu à l'époque. Donc vous imaginez là aussi un peu, le gars, il arrive, il joue la chanson d'un détenu.
Et il s'est battu pour le faire sortir de prison. D'ailleurs, ce détenu, qui au final, en 78, il me semble, si mes souvenirs sont bons, s'est suicidé.
C'est ça. Non, sans avoir été revenu en prison, puisqu'il a quand même fait quelques allers-retours, Glenn Shirley. Et il y a une très belle photo, d'ailleurs, de ce jour-là, où Johnny Cash, avant de chanter la chanson, ou après, je ne sais plus, se penche en avant et va serrer la main de Glenn Shirley, qui est dans le public et qui en est tout ému.
Glenn Shirley qui enregistrera quelques titres de country, qui aura son petit moment de gloire, mais effectivement, il n'était pas vraiment fait peut-être pour l'extérieur de la prison. Il a fini par suicider sans doute à cause de ça. Il arrivait mal à vivre son statut de star. Il faut savoir aussi que Johnny Cash a joué en prison, c'était à la fin des années 50, à Saint-Quentin, devant une future star de la country également, Merle Haggard, qui plus tard vendra des caisses et des caisses d'albums aux États-Unis, si on ne connaît pas trop. Mais là-bas, c'était une grosse star. Et donc, il a vu au premier rang, à l'époque, Johnny Cash jouer sa chanson. Mais on va peut-être écouter justement une chanson qui parle de prison, Folsom Prison Blues, dont on a parlé tout à l'heure, enregistrée en 68, à Folsom Prison.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well,
Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Voilà pour ce titre, Folsom Prison Blues. Et d'ailleurs, si nos amis détenus amendes nous écoutent, il y a le groupe losérien Subway qui va venir en concert prochainement. Et donc, qu'il faut aller voir parce que c'est un très bon groupe.
Oui, qu'il faut aller voir, mais qu'on ne pourra pas aller voir vu qu'ils sont en prison.
Nous, on ne pourra pas, mais peut-être Dave d'ici là, s'il continue à prendre des amphétamines entre Saint-Germain-de-Calberte et Malbouzon.
Je suis prêt là, en tout cas.
C'est possible. Luc ?
Oui, Johnny Cash, donc il fait de la prison, il fait des concerts en prison, mais il n'y va pas. Il en parle beaucoup en prison. Oui.
Ah oui, oui, il a fait croire qu'il y allait.
Il a fait croire. C'était une blague.
C'est un mytho.
Ouais, il y allait un peu. Il y allait un peu.
Mais Johnny Cash, il arrive quand même à sortir de sa période drogue au grand désarroi de Fabien. Donc c'est un petit peu le fond de commerce, parler des chanteurs drogués.
C'est pour ça qu'on a des auditeurs. Hein.
Ouais. Il arrive à s'en sortir, notamment, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, grâce à John Carter. Il arrive à devenir clean et une fois clean, il trouve un peu l'illumination, la rédemption. Il va se tourner un peu vers l'Église, notamment se rapprocher d'un pasteur qui s'appelle Billy Graham. Alors plutôt au départ au soulagement des gens qui de son entourage, un de ses musiciens, je crois que c'est le batteur, qui disait quand il est devenu clean et a commencé à fréquenter Billy Graham, je me suis senti mieux parce que je savais qu'il ne ferait pas toutes ces bêtises devant Billy. Donc, voilà, c'était signe qu'il avait repris un peu son rythme plus calme. D'ailleurs, dans l'album Men in Black, dont on parlera peut-être un peu plus tard, c'est la voix de Billy Graham qu'on entend prononcer des extraits de la Bible. Voilà, à cette époque, il a arrêté les amphètes, il a arrêté la drogue, l'alcool. Il a retrouvé la foi, il va celle de son enfance quand il chantait on y revient toujours dans ses chants de coton et Graham par exemple veut que Johnny Cash l'aide à répondre cette bonne parole en fait, à faire de lui un peu une sorte de télé-évangéliste. Alors entre guillemets télé-évangéliste, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. Graham veut que Johnny Cash l'aide à dispenser cette bonne parole à travers ses chansons. Parce qu'on l'oublie, enfin, on n'en a pas trop parlé finalement, mais il a quand même toujours gardé ce côté un peu gospel et spirituel dans ses chansons. Voilà, et par exemple, Fluke Holland, le bassiste, disait, il nous arrivait de jouer dans une boîte de nuit ou dans une prison, et soudain, on recevait un coup de fil nous demandant de nous rendre à une croisade de Billy Graham, quelque part. Billy disait au public, je ne m'adresse pas aujourd'hui aux fans de Billy Graham, mais aux fans de Johnny Cash. Voilà, et cette façon d'enflammer un petit peu la foule. La rédemption elle oblige aussi Johnny Cash à aller de l'avant. Il va, Fabien en a parlé tout à l'heure, hein, il va devenir un peu chanteur des minorités. Il va faire beaucoup de choses, hein. Il va se battre pour la situation des prisonniers, des Indiens d'Amérique.
On est à quelle année là à peu près ?
On est dans les années 70, fin des années 60, début des années 70.
Sergeant Pepper est sorti.
Oui, bien sorti.
Ouais, c'est dommage de devenir clean au moment où Sergeant Pepper sort. Ouais. Mais
il y a son producteur qui lui dit, Dylan utilise maintenant des guitares électriques, il faudrait peut-être que tu t'y mettes. Il y a beaucoup de gens autour de lui qui lui disent, bah, Johnny Cash, ok, t'es Johnny Cash, mais il faut peut-être changer et il faut peut-être te mettre au goût du jour.
Oui, mais c'est lui qui change plutôt les autres, parce que par exemple, pour Dylan, justement, il avait requitté sa guitare électrique pour faire un album qui s'appelait John Wesley Harding en 67, qui était à contre-courant de l'époque vu que c'était un disque de country. Et finalement, dans son album d'après, il va enregistrer en duo The Girl from the North Country, un de ses anciens morceaux, avec Johnny Cash. Donc voilà, ça sera, ils auront une amitié comme ça tout au long de leur vie, un respect mutuel, un peu de personnes isolées, incomprises et souffrantes.
Johnny Cash a écrit un morceau ou plusieurs à Bob Dylan, non ?
C'est essentiellement des morceaux de Bob Dylan que Johnny Cash a repris. Après, il y a un album entier, enfin un album, on ne peut pas appeler ça un album, mais il y a tellement de chansons qui ont été chantées par les deux ensemble qu'il y a un des bootlegs les plus recherchés par les fans de l'un ou de l'autre est composé uniquement de ces morceaux, donc de ces duos enregistrés et jamais sortis sur disque officiel.
Alors qu'il faut dire que Bob Dylan ne faisait jamais ça avec personne, c'était Bob Dylan et c'est tout, il était voilà. Super égocentrique.
Et puis c'est compliqué de chanter avec Bob Dylan hein, quand on connaît sa voix, et surtout quand on connaît celle de Johnny Cash, on se demande comment ça peut marcher.
Oui, et pourtant.
Et pourtant ça a marché, ça a plutôt bien marché entre les deux. Johnny Cash, il va se créer... Il va devenir un personnage, on en a parlé au tout début, il va devenir le Man in Black.
Ouais, ça il faudrait l'expliquer à nos auditeurs, pourquoi Man in Black ?
C'est pas compliqué parce qu'il était habillé en noir. Voilà, de la tête aux pieds.
Ce qui se faisait pas à l'époque.
Surtout pour les chanteurs de country.
Voilà, ouais, généralement les chanteurs de country c'était des grandes vestes à paillettes avec des franges partout.
Des chapeaux,
des machins. Lui, il arrive, il débarque, il est chemise noire, pantalon noir.
Et pourquoi on a l'explication ou pas du tout ?
Alors, il y a plusieurs explications.
Ah.
Il y en a une qui dit, c'est Philippe Manœuvre qui la cite.
Qui était le mois dernier dans notre émission, Philippe Manœuvre.
Oui, tout à fait, qui a fait finalement un hommage dans le dernier numéro Rock and Folk, qu'il a choisi David Bowie et Ziggy Stardust pour en faire la couverture, après avoir écouté
Rock'n'Roll FM. Il a repris tout ce qu'on avait dit.
Merci Philou.
Même tes blagues.
Philippe Manœuvre.
Philou.
Il a dit, Johnny Cash a dit, je porte le noir pour les pauvres et les opprimés vivant dans les quartiers misérables et sans espoir de la cité. Je le porte pour les prisonniers qui ont depuis longtemps payé pour leurs crimes. On les garde enfermés. Notre époque en a fait des victimes. Et Philippe Manœuvre a dit, si les gentils s'habillent en clair et les méchants en sombre, Johnny Cash, l'homme en noir, indiquait clairement son bord et c'était pas celui des matons.
Est-ce que tu pourrais le refaire avec la voix de Philippe Manœuvre ?
Non.
Il a écrit une chanson, mais qui est un délire, vraiment. Alors là, Johnny Cash, il arrive, il explose tout, on est en prison. Il faut se dire, les gars, on est en prison quand même. Mais il est pénible, ce garçon. Hein,
il est bon.
Voilà, donc Philippe Manœuvre était présent à cette émission. Voilà, on l'avait caché depuis
comme à la dernière.
Il était aux toilettes.
Il nous a pompé.
Par contre,
on balancera pas d'insultes, mais salaud.
Alors, il y a une autre explication de son batteur. Quand on demande pourquoi Johnny Cash s'habillait-il en noir, il dit « C'est très simple, à l'époque, quand on partait en tournée, plus longtemps on pouvait garder les mêmes vêtements, mieux c'était, et le noir, c'est quand même pas très salissant. » Voilà. Alors, maintenant,
c'est pas mal comme explication.
Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ?
Tu es habillé comment, Dave ?
Dave ?
En noir, aussi.
Eh oui. Dave, un t-shirt des Who. Ça, faut quand même le dire.
Et Luc, en t-shirt Sex Pistols.
Absolument.
Et toi, avec un t-shirt panda, Fabien.
Un panda. Et d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à mon fils aujourd'hui, qui est aussi habillé pour la circonstance, vu qu'il a un petit pyjama Kid Rock. Little Rock, pardon. Et Little Rock, donc, avec une petite guitare, et Little Rock, Arkansas. Donc, qui Arkansas, Johnny Cash.
Ton fils qui était pas né à la dernière émission.
Non, ça l'a fait net peut-être.
Il n'aura pas écouté l'émission sur David Bowie.
Oh, il écoutera, il la podcastera comme tout le monde.
Voilà, on peut aller sur 48fm.org pour podcaster les émissions dans l'onglet podcast.
Magnifique. Voilà. On va podcaster et on va podcaster la prochaine chanson aussi peut-être.
Allons-y.
Qui part de Rédemption.
Hein, on vous dira un secret sur Dave après.
Voilà, qui part de Rédemption qui est un très beau duo. Un très beau duo avec Joe Strummer, feu le chanteur des Clash, tous rejoints en fait dans ces émissions sur une musique de Bob Marley, Redemption Song.
Johnny Clash donc.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Voilà pour cette reprise de Bob Marley, Redemption Song. Alors, comme j'aime bien les statistiques, je vais en sortir, j'en sors à chaque émission. Et Johnny Cash, qui a été classé par le magazine Rolling Stone 21e meilleur chanteur de tous les temps.
Ce qui ne veut à peu près rien dire si on ne connaît pas les 20 premiers.
Absolument.
C'est une belle stat, Ludo.
Mais c'est quand même une belle stat, mais j'en ai encore, c'est pas fini. Johnny Cash a été nommé au Rock'n'Roll Hall of Fame, et c'est la seule personne qui a été introduite à la fois au Rock'n'Roll Hall of Fame, au Country Music Hall of Fame et au Songwriter Hall of Fame.
J'avoue que j'ai eu un peu peur quand tu as dit c'est la seule personne qui a été introduite, et tu as marqué un temps d'arrêt.
Oui. Dave, une blague ?
Non.
Non ? Bon, très bien.
Je crois qu'on a perdu c'est Dave. Moche.
Il a aussi fait des films et des séries, mais ça, on en parlera après.
Ben oui, justement, enfin, on va en parler quasiment tout de suite, là, parce qu'on est dans la période chrétienne, donc qui correspond au sevrage de drogue, et bizarrement, ou pas bizarrement d'ailleurs.
Ça marche moins.
Voilà, à la fois au niveau public, ça marche moins, et puis au niveau de l'écriture, c'est plus du tout ça. Musicalement, il n'intéresse plus personne, ça devient un peu un chanteur de country has-been. Donc, dans les années 70, à part l'album Men in Black dont on parlait, qui est vraiment un bon album.
Will Smith. Dave.
Men in Black.
Voilà, à part cet album-là, ce qu'il fait, c'est pas terrible. Alors, au tout début des années 70, il surnage encore parce qu'il a sa propre émission qui est enregistrée depuis Nashville. Où il fait venir donc ses amis Bob Dylan, Willie Nelson, Chris Christopherson, etc. Tous les Neil Young aussi, tous les folkeux un peu
mal,
rejetés.
Ouais.
Enfin rejetés, façon de parler, mais voilà, qui ont du succès, mais qui pour les chanteurs country sont quand même voilà, c'est un sacrilège. Il les fait venir, il enregistre avec eux tout ça, mais ça dure pas longtemps. Son émission, elle doit s'arrêter quelque chose comme en 71 ou 72. Et après, on peut appeler ça une traversée du désert. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la religion essentiellement.
Il fait des concerts petits dans des bars, tout ça, devant des mémères à coupe de champagne. Enfin, c'est pas très très glorieux, quoi.
C'est pathétique.
Voilà. Il y a des mémères décorées comme des arbres de Noël.
Voilà, exactement. Et lui tout en noir devant, qui voilà.
Johnny Cash.
Voilà. Il y a des concerts où il arrive même plus trop, voilà, à intéresser le public. Hein. On peut lire, on l'oublie à cette époque-là. Et une manière de le voir finalement pour le grand public, c'est bah, dans les séries télé. Alors, il joue dans Columbo, il joue dans La Petite Maison dans la Prairie, et il jouera plus tard dans Dr. Quinn,
Dr. Quinn, femme médecin,
voilà. Avec June Carter.
Ah, oui, quand même.
Avec June Carter, ouais. Ouais. Bon, ouais, voilà, c'est pas
on
glorieux.
On se moque pas de cette série.
Il y a fait quelques
Dr. Quinn qui repasse sur Gulli en ce moment.
Mmh. Ouais, ah, ça, il y aura peut-être l'épisode où il joue, alors. Ah, oui, il y a formidable. Un ou deux où il a joué dedans.
Faut dire aussi à sa décharge qu'il n'est pas resté sobre tout le temps, hein. Il n'était pas resté clean tout le temps. Il est resté clean une dizaine d'années. Il a eu des rechutes.
Mais alors, pour repasser dans Dr. Quinn,
à sa décharge à nouveau, il n'a pas été clean tout le temps, mais une fois, ce n'était pas sa faute. C'était dans les années 80, il a été attaqué par une bête, comme on dit, et il est allé à l'hosto se faire soigner, et là, ils lui ont filé des analgésiques, ce qu'il n'a pas vraiment supporté. Quand on est sevré, ça ne va pas du tout. Il est retombé dedans à fond, quoi. Et donc, si bien que quand il s'est fait opérer à nouveau, je ne sais plus de quoi, à la fin des années 80, c'était peut-être un double pontage, quelque chose d'assez violent, il a demandé à ne pas avoir d'anesthésie, tout simplement. Pour pas, voilà.
Donc, par rapport à la religion ou
double, Non. Pour pas retomber dans la drogue. Donc, double pontage sans anesthésie, à tester. À voir.
On va essayer sur courage, hein. Luc ou sur Dave.
Alors, perso, non.
Non plus. C'est un peu cash, je trouve.
Je passe.
Donc, série télé, film aussi, des films nuls dont on a oublié le nom.
Un très bon Columbo, quand même, en 1974. Hein.
Un très bon
Columbo, Le Chant du Cygne. Je conseille. Excellent. Moi, je suis fan de Columbo. Ouais. Peter Falk, le plus grand inspecteur de tous les temps.
Hein. Peter Falk qui est mort.
Ah non.
Non, voilà. Non,
toujours à Badarouche et Bruno May, d'ailleurs. Oui.
D'accord. C'est ça. Il offre des bières aussi.
Ah oui.
Parfait. Donc voilà, enfin bref, c'est une période assez triste. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il est nommé au Rock'n'Roll Hall of Fame, au Country Hall of Fame, tout un tas de distinctions, mais qu'on donne un peu comme l'Oscar à une vieille actrice parce qu'on sent qu'elle va mourir.
Avant sa fin.
Voilà, c'est un peu vénérons le grand vieux qui chantait bien à l'époque. Et donc, c'est une période très triste dont surnage uniquement Men in Black, qu'on va écouter maintenant pour quand même se remémorer que tout n'était pas si noir.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know. And a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Voilà pour cette chanson Men in Black. Dave, pour nos auditeurs, on a des nouveaux surnoms pour Fabien et Luc.
Oui, alors Fabien Schweppes, hein, et pour Luc Coca-Fraise.
Alors, si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez aller demain au bar Le Louvre à Saint-Chély, vous demander pourquoi et vous aurez le droit à un fricando gratuit. Luc, alors il y a quelque chose qui m'interpelle, ou un Coca-Fraise aussi avec le fricando, pourquoi pas, et peut-être un peu de moutarde. Ça, il faut voir, parce que Bruno, on sait jamais. Il y a une question qui m'interpelle, Luc. Donc, tu parles d'amour, du premier enregistrement, de Dieu, de June. Fabien, tu parles de drogue, de frères morts, d'errance et de traversée du désert. Pourquoi ?
Parce que c'est la vie de Johnny Cash.
Voilà.
Très bien. Alors, continuons.
On parle quand même d'un type qui a joué dans un film de série Z qui s'appelait Le taré du porte-à-porte.
Door to door maniac, et qui, pour se foutre de sa propre gueule et quitter sa maison de disque pendant sa traversée du désert, a enregistré une chanson qui s'appelait Chicken in Black.
Chicken in Black.
C'est Tomo. Men in Black, Chicken in Black.
Et où il était déguisé en poulet dans le clip quand même.
Le poulet noir.
Il faut imaginer Johnny Cash déguisé en poulet.
C'est au moment où il avait des problèmes avec sa production et dans le clip, mes souvenirs sont bons, il se faisait greffer un cerveau, ou il y avait un truc comme ça.
Ah oui, là il était bien. Là, ouais.
Voilà. Mais il ne va pas rester comme ça toute sa vie.
Il se fait virer par la maison de disque suite à ce clip aussi. Hein.
Il part de Columbia, il part chez Mercury Records. C'est aussi un échec un peu commercial. Johnny Cash il va retrouver le devant de la scène. La vie de Johnny Cash est un paradoxe, hein. Paradoxalement, il va retrouver la scène grâce à un producteur de rap et de metal, de hip hop et de metal qui s'appelle
Logique,
qui s'appelle Rick Rubin. C'est en 90.
D'ailleurs, une aparté, quand il sera mort, Johnny Cash, il y a énormément d'artistes qui vont lui rendre hommage, dont Snoop Dogg, qui va faire une chanson sur lui. Plein de chanteurs, prévu, ouais. De rappeurs et de métal.
Ouais. C'est pas demain la veille qu'il sera mort, Johnny Cash.
Il est mort. Vous
dire. Ah, pardon.
Par contre, on le verra tout à l'heure, mais il est effectivement mort. Pardon. Donc Rick Rubin va chercher Johnny Cash...
Ça y est, Dave balance ses blagues là. On a attendu 50.
Dommage, c'est la fin de l'émission.
72 minutes d'émission pour avoir les blagues de Dave.
C'est la bière, c'est le contre-coup.
On était bien là. T'es pas mal là, t'es chaud maintenant. Hein.
En fait, on va faire combien de minutes d'émission en fait cette fois? On fait des pronostics ou pas? 84,
on...
moi je dis.
On est à 72, donc ouais, 84,
on est pas mal. Ouais. Johnny Cash, donc on va y revenir à sa renaissance grâce à Rick Rubin. Il va signer sur un label qui s'appelle American Recording.
Le label de System of a Down, justement, groupe metal vraiment...
The Cult aussi.
Ouais.
Et c'est grâce à ça, c'est parce que le fils de Johnny Cash, qui est né en 70 ou 71, était fan 71. De metal, tout ça, et du coup, il connaissait Rick Rubin, et c'est lui, il lui a dit, ah, vas-y, enregistre avec lui, c'est super.
Ouais, parce que Johnny Cash, à la base, il est pas super,
metal.
Super chaud, motivé pour... Pour aller avec Rubin. Et Rubin va lui faire des trucs...
Rubin Kazan, Dave.
Rubin Kazan.
C'est bon, pardon, excuse-nous.
Plus du tout.
Je pense qu'on a perdu nos auditrices déjà. Peut-être les auditeurs auront compris cette blague, mais les auditrices...
On attend qu'elles viennent à la radio, d'ailleurs.
C'est fini.
Elles pleurent. On parlera du jeu de la dernière fois, d'ailleurs. Il faudra expliquer à nos auditeurs pourquoi il n'y a pas... Le gagnant du jeu de la dernière fois, on l'expliquera à la fin.
Donc Rick Rubin fait interpréter à Johnny Cash des chansons totalement hors de son répertoire, pour la plupart. Il va lui faire beaucoup de reprises, notamment des reprises de... Bah, on a entendu Redemption Song, qui est une reprise. Il y en a une autre aussi, une reprise de Father and Son avec Fiona Apple, beaucoup de duos, des reprises de Nine Inch Nails, là qui est pour le coup un groupe
qui est pas évident en country.
Mais justement, c'est plus de la country.
Et là, alors là, c'est plus de la country. Là, on est dans un autre domaine, et on est dans un domaine où la voix de Johnny Cash va vraiment faire des merveilles, et ça va totalement relancer la carrière de Johnny Cash. Il va vendre beaucoup d'albums avec ça. Il va revenir. Alors, il va pas refaire beaucoup de scènes parce que Johnny Cash, il est malade. Il a une maladie neurodégénérative. Grosso modo qui ressemble un peu à la maladie de Parkinson.
D'accord, je crois qu'il était diabétique seulement.
Il était aussi diabétique. Il avait les deux. Il a une pneumonie qui lui abîme les poumons, ce qui fait qu'il revient très peu sur scène finalement. Il continue à enregistrer. Il a enregistré une série qui s'appelle American, où il y a, je crois, 5 ou 6 albums.
Quatre albums de son vivant.
Deux posthumes.
Donc, plus un coffret. Plus un coffret. Session Unearthed.
Unearthed, exactement. C'est tout ça qui va relancer sa carrière.
Quel est le concept, Luc ? Explique-nous.
Le concept, c'est de faire reprendre à un chanteur country qui a une voix
bariton.
La voix bariton.
Comme toi. Oui.
Comme Dave.
Mmh. Oui.
De lui faire reprendre ces morceaux-là, qui sont des morceaux très connus. Hein. On va entendre tout à l'heure une reprise de U2. Il reprend Personal Jesus.
De Dépêche Mode.
C'est tout ce concept-là. C'est de relancer. Rick Rubin, lui, il aime beaucoup hein, ce que faisait Johnny Cash en country. C'est de lui remettre un peu le pied à l'étrier. Ça va marcher. Bon, le problème, c'est qu'après, effectivement, Johnny Cash est pas si âgé que ça, parce qu'il a 61 ans quand il commence à travailler avec Rick Rubin, qui en a, lui, 31 pour le coup.
Les années 90, en fait, c'est ça.
Milieu des années 90, 95, par là.
61 ans, on a fini sa carrière de footballeur.
Oh, largement.
Largement. Si je vous dérange, je vous le dis.
Je filme la passe de football à 61 ans. On peut pas voir à l'image bientôt.
D'accord.
Bientôt, on va se filmer.
Bientôt.
Vous pourrez voir Dave, les auditrices.
Ah.
On en aura peut-être moins.
Beaucoup moins, même. Amen. Donc voilà, donc Johnny Cash finit sa carrière comme ça, avec ses reprises, avec ses albums. Il a un grand drame dans sa vie, c'est qu'il va perdre sa compagne June Carter.
L'amour de sa vie.
Ouais, c'est ça. En juillet 2003, elle décède au cours d'une opération chirurgicale. Il va lui survivre, je crois, 6 semaines, mais un peu plus, 8 semaines, puisqu'il meurt en septembre 2003.
Comme quoi, l'amour, hein. C'est fou, hein,
Johnny Cash est mort en 2003.
Johnny Cash est mort en 2003.
4 mois après...
4 mois après June Carter.
Donc il n'est pas vivant.
Là, c'est officiel maintenant.
C'est
officiel.
Ouais. Oh, ça me fait quelque chose.
À moins qu'il soit avec Johnny et Kurt Cobain.
Alors, il a quand même une grande joie à la fin de sa vie, c'est qu'il a réussi, grâce à Rick Rubin, à enregistrer enfin les chansons de gospel qu'il chantait dans les champs de coton avec sa mère. C'est un peu comme ça aussi que Rubin l'avait convaincu. Il y avait un double concept à la série américaine. C'était « Je te fais enregistrer des titres que tu ne connais même pas de chanteurs d'aujourd'hui, mais tu vas les faire avec ta voix et ça va être formidable. » Et d'un autre côté, tu vas enregistrer enfin toutes les chansons que tu voulais enregistrer, que tu n'as jamais pu faire parce que les labels ne voulaient pas. Et ça donnera My Mother's in Book, un album entier comme ça de vieux gospel qui chante magnifiquement bien.
Et Rubin avait à ce point relancé Johnny Cash, c'est que quand June Carter est morte, Johnny Cash avait dit June Carter m'a dit d'aller de l'avant et je crois que c'est ce que je vais faire. Rick parle de 10 années que nous avons devant nous et moi aussi je suis prêt pour les 5 prochaines années en tout cas. Voilà. Donc il avait prévu de continuer cette collaboration avec Rick Rubin. On va peut-être se faire un petit extrait de cette
avec
collaboration.
Plaisir, ouais.
Une très très belle reprise d'une chanson de U2, One.
Il faut le faire quand même. Hein. Une belle reprise de U2, faut y arriver. Hein.
C'est pas facile.
Ceci s'adresse à un fan de Badarou.
Is it getting better? or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life, you've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, one.
Pour Valérie, Fabien ?
Oui, juste pour dire que cette version de One, on est tous d'accord ici, est nettement supérieure à la version originale de U2.
Nettement.
Voilà, nettement. Ça s'adresse aussi à Thierry, à Badarou. Et pour dire à quel point, à la fin de sa carrière, il arrivait à sublimer des chansons, il a même enregistré du Sting, en faisant sonner vraiment bien, quoi. Du Sting solo, hein. Pas, je parle même pas de Police, là.
Ça, c'est quand même pas un mince exploit, les gars.
Absolument. Dave qui a vu Police à la fête foraine de Palavas avant Stone et Chardin.
C'était en 98, c'est vrai, oui, oui, tout à fait. En
98.
Oui. Moi, j'ai vu la Police à Amande tout à l'heure, il y a 5 minutes, puis dans 5 minutes aussi, puis ouais. Dans 10 minutes.
On a un problème avec Dave, par contre. Il fait tomber les bières, oui. Il ne suit plus.
Il a préparé 50 blagues, on en a entendu 2 durant cette émission.
Il en reste 48, comme les Condors.
Donc, soyons d'accord. Comme les Condors, exactement. Oui. Soyons d'accord, si vous voulez plus Dave dans l'émission, vous nous envoyez des SMS ou des mails sur redac@48fm.com. .org, parce que .com, ça n'arrivera pas. Et on sera d'accord, peut-être, pour éliminer Dave de l'émission et le remplacer.
D'autant qu'on a un candidat pour la prochaine émission. Hein.
Ça, il faudrait l'expliquer à nos auditeurs, Luc, parce que voilà, on a fait un jeu la semaine dernière en disant...
Le mois dernier, d'ailleurs.
Le mois dernier, ouais. Je veux tellement que ces émissions soient chaque semaine que je parle de la semaine dernière. On a fait un jeu qui expliquait que la première personne qui viendrait nous montrer ses seins devant la radio, alors que l'émission est en direct, pourrait participer à l'émission prochaine.
On a d'ailleurs commis une colossale erreur, on est la première personne, on aurait dû dire la première fille.
Oui, on s'est retrouvé avec un énergumène avec marqué Dick River sur le torse. Donc, on va quand même l'inviter, mais on l'invitera pas le mois prochain parce qu'on est en vacances, il faut qu'on se repose un peu. Dans 2 mois, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure.
Et je veux juste faire un hommage à Dave quand même, parce qu'on dit qu'il n'a pas utilisé toutes ses blagues et qu'il avait fait une sur les condors, peut-être. Une blague sur les condors, comment appelle-t-on la femelle du condor?
Une condorette.
Non, la chambre à coucher, parce que c'est la condor.
Bravo. C'est vrai, c'est chouette, hein, c'est comme ça, ça fait pchit.
D'ailleurs, en parlant, oui, on l'a dit, les surnoms déjà.
Oui, on l'a dit, ouais, ça c'est la bière. Ouais.
C'est ça. Alors, on va faire un petit point sur ce qu'il faut acheter ou pas sur
comme à chaque émission,
sachant qu'il y a 55 albums de Johnny Cash.
Oui, mais plus les compilations, les lives.
Alors, il faut savoir que Johnny Cash a vendu 90 millions d'albums en 50 ans de carrière, ce qui est quand même pas négligé. Pour les gens qui disent Johnny Cash n'est pas connu, quand même...
On ne négligera pas.
90 millions d'albums.
C'est plus que moi.
Est connu.
Ça, c'est pour Sandrine M qui nous écoute et qui est venue nous dire que l'émission passait pas à l'antenne parce qu'on avait appuyé sur le mauvais bouton.
Tu dis « on », mais nous, personnellement, on n'a rien fait.
Ouais. Nous, on n'appuie pas sur les
D'ailleurs,
boutons en même temps.
On a tout refaire, merci.
On ne veut pas balancer, mais bon.
Autant pour moi. Qu'est-ce qu'il faut acheter, Luc?
Des albums.
Ça tombe bien.
Allez, s'il y en avait qu'un, ce serait le live at Saint Quentin. On a entendu quelques extraits ce soir. En plus, c'est cool parce que c'est des versions remasterisées et non censurées, puisqu'à l'époque les albums étaient pas censurés. Et notamment, c'est à Saint Quentin ou à Folsom. Folsom où Johnny Cash prévenait. Les prisonniers qui n'avaient pas le droit de dire shit et fuck à la radio.
Ok, Fabien, qu'est-ce qu'il faut acheter?
Folsom, c'est un peu la paire magique. Et ils existent sur le même disque. Hein. Ils sont sortis, il y a Folsom et Saint-Quentin qui se suivent. Sinon, dans toute la période Sun du début, il y a des compilations de la période Sun qui sont très très bien. Il y a aussi, après, si on veut pousser un peu plus dans la première partie de carrière, les albums concept, donc sur les Indiens, sur les trains. Ce genre de choses qui sont très bien. Man in Black aussi, ouais, qui est Man le seul truc qui surnage un peu entre fin 60 et les années 90. Et puis bon, toute la période américaine, alors soit le coffret où il y a le best-of de la période américaine, les chansons gospel, des inédits, qui s'appelle Unearthed.
Alors par contre, c'est un peu cher.
Ouais, c'est un peu cher.
Il faut vraiment être fan, il faut vraiment avoir envie de...
Après, les disques américains, donc il y en a eu 4 de son vivant, les 2 meilleurs sont le 3e et le 4e. Voilà, c'est mon avis. Mais...
Voilà, okay. Et y en a un dernier qui vient de sortir il y a quelques semaines.
Il y a pas longtemps, il y a des bootleg series aussi officielles qui sortent.
Voilà, et une dernière chose, parce que faut quand même le dire, il y a le très bon film avec... Joachim Phoenix. Ah, d'accord.
Filmographie après, d'abord la vie de Dave sur les disques sortis. Qu'est-ce qu'il faut acheter, Dave?
Pour les plus jeunes, peut-être, en tout cas pour ma part, le remix de Laurent Wolf, en 2009, Laurent Wolf feat Johnny Cash. Un bon moyen de découvrir peut-être Johnny Cash pour ceux qui connaissent pas trop finalement, parce que ça reste quelqu'un de connu, mais. Peut-être pas tant que ça.
Mais inconnu.
Et pour les c'est enfants, beau. Henri Dess reprend Johnny Cash.
Oui, avec Pierre Perret en duo.
Avec Pierre Perret. Moi, je reste sur Man in Black aussi, comme Fabien l'a dit tout à l'heure. Filmographie, Luc.
Filmographie, il y a le Walk the Line avec Joaquin Phoenix. Très, très bon film. Qui,
un peu édulcoré.
Oui, qui romance un peu la vie de Johnny Cash et de June Carter. Alors, effectivement, c'est un peu romancé, c'est un petit peu arrangé.
Le principe du film.
Ouais, normal. Mais bon, ça résume plutôt bien.
C'est quand même mieux que La Vie en Rose. Non, que La Môme, Les Américains sont quand même bons pour faire des biopics. Hein.
Sur Edith Piaf. Oui. Si vous êtes fan, vous pourrez peut-être trouver The Door-to-Door Maniac, le fameux film de série Z où jouait Johnny Cash.
Faut être fan,
faut aimer. Il existe aussi, alors je sais pas si ça se trouve encore dans le commerce, j'avoue que je sais plus trop, des documentaires
Il est chez Bruno M du Louvre.
Oui, et Espace Culture est paru.
Des documentaires sur le tournage des lives à Saint-Quentin et à Folsom. À Saint-Quentin, je crois, je sais que c'est la BBC qui avait réalisé ce documentaire. Je pense que ça doit se trouver, mais
magnifique documentaire.
Je pense d'ailleurs qu'il faut chercher
internet difficilement.
Et une très bonne BD aussi. Ça se fait de plus en plus, mais ça reste assez rare quand même des BD sur la vie de chanteur comme ça. Une BD allemande qui a été traduite en français dans la foulée de la sortie du film All Walks the Line, qui s'appelle pareil et dont j'ai oublié en revanche le titre le nom de l'auteur, mais bon.
Il est allemand.
Il m'en voudra pas, il écoute pas l'émission.
Il y a une série de Pins Check aussi qui est sortie en 99, c'est vrai. Oui, oui.
Mm-hmm. Exactement.
Ah, oui, 99.
Voilà pour Johnny Cash. On va parler de notre concours. Juste un petit dernier mot de notre concours du mois dernier, décidément. Donc nous avons eu un gagnant. On aurait préféré avoir une gagnante, mais bon, on a eu un gagnant.
Qui s'appelle Rick.
Qui s'appelle Rick. Rick Divers.
Rick Divers. Voilà,
à qui nous avons promis de passer à l'antenne pour nous parler de sa passion de
Dick Rivers.
De Dick Rivers. Donc,
alors, ça ne sera pas le mois prochain parce on va prendre des vacances. Là,
exactement.
On est fatigué. 6 mois d'émission.
On va recharger stock d'albums.
On n'a plus d'argent. Trop de bière.
Ouais.
Trop de drogue.
À cause de Dave.
Grâce à Fabien
aussi.
Ou à cause, je ne sais pas.
On va acheter des albums, plein. On vous les fera écouter, tous.
Et on a choisi de faire passer cette personne à la prochaine émission, donc fin août, parce que Dick Rivers et parce que le prochain artiste qui va venir dans Rock'n'Roll Diaries et qu'on va écouter tout de suite, soyez bien présents, fin août.
FM.